Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai Oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose Parole aux auditeurs. Le 24 mars de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. L'année dernière, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030. L'une des cibles de nouveaux objectifs de développement durable est de mettre fin à l'épidémie de tuberculose d'ici à 2030. Certains observateurs estiment que la RDC connaît des avancées dans la lutte vu l'amélioration des taux des cas des personnes infectées qui se justifie par l'amélioration de l'accès de malades aux soins de santé appropriés en partie gratuitement. Comment capitaliser ces avancées? 081 890 63 15 si vous avez besoin de vous joindre à nous pour cet échange en direct. J.R. Lungembo est à la coordination et à la réalisation de ces magazines mis à nom de par Hippolyte Kapanga. Pierrot Elameji vous le présente sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elameji.
Comment consolider les acquis de la RDC et les avancées dans la lutte contre la tuberculose? C'est au centre de notre échange de ces jours. Rappelons qu'avec plus de 112 000 cas notifiés chaque année, la RDC occupe le 10e rang mondial et le 3e rang dans la région africaine de l'OMS après l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Dans le même temps, elle est un de 22 pays qui supportent 80% de la charge mondiale de la tuberculose avec une incidence estimée à 3,27 cas pour 100 000 habitants. Quant à la prévalence, elle est de l'ordre de 549 cas pour 100 000 habitants. Tandis que le taux de mortalité avoisine 68% pour 100 000 habitants. Selon les dernières statistiques mises à jour, la prévalence des résistances parmi les cas déjà traités se situe autour de 13%, alors que pour les nouveaux patients, elle est à 3,5%. Le taux de prévalence du VIH chez les malades tuberculés en RDC est de 14%, selon le Programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT, de la RDC. Face à la gravité de cette situation, la RDC a institué depuis 2002 la gratuité des soins pour toute personne dépistée tuberculeuse et a déclaré la tuberculose comme urgence nationale depuis 2006. Alors, comment arriver à consolider ces acquis dans la lutte contre la tuberculose en RDC? Quelle est la situation dans votre milieu? Est-ce que les gens qui sont malades de la tuberculose ont-ils accès facile aux soins? Nous allons échanger avec vous dans cet échange au 081 890 6315 pour intervenir en direct. Maître Adrien, vous nous appelez de Kananga, dans la province du Kassai Central. Bonjour et bienvenue Maître Adrien.
Oui, bonjour Pierrot Elameji, bonjour à tous les amis auditeurs.
Et vous êtes à Kananga, au Kassai Central. Dites-nous comment se présente la situation aujourd'hui des luttes contre la tuberculose dans cette province et dans cette ville particulièrement.
Oui, merci Pierrot de la parole que vous m'accordez. C'est vrai que la tuberculose dans les années passées, les années 90 et 2000, c'était une maladie très 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 mortelle et puis qui s'est contaminée d'une personne à une autre, au moins dans chaque territoire de notre province. On pouvait compter dans chaque parcelle de cas de tuberculose, mais il faut reconnaître qu'il y a eu vraiment des avancées significatives de ce côté-là parce que au jour d'aujourd'hui, lorsque nous circulons, même dans des hôpitaux, dans nos différents territoires, nous nous rendons compte que ce sont des cas à compter vraiment au bout des doigts. Hein. Donc, je ne pense pas que dans la province du Kassai Central ou encore la province du Kassai, on peut me dire au jour d'aujourd'hui qu'il y a même 2% des taux donc, de cette maladie tuberculose. Non, parce que comme je vous avais dit, il y avait des luttes sans merci qui étaient engagées. Il y avait certains hôpitaux spécialisés en ça. Je n'aimerais pas vous citer l'hôpital de Mwembe, donc dans la collectivité de Mapangu. Et c'était peut-être une spécialisation de cet hôpital. Tout le monde se diriger là-bas. Et il n'y a pas longtemps, j'étais de passage, je n'ai trouvé aucun cas. À Ilebo, j'ai trouvé deux cas. Ici, à Kananga, c'est peut-être quelques cas seulement. Voilà un peu la situation d'une manière générale. Mmh. Maintenant, pour pérenniser vraiment cette lutte, moi je pense qu'il faut que nos amis puissent regarder toujours dans la même direction, parce que, Pierrot, je l'ai toujours dit, le secteur sanitaire, c'est l'un des secteurs où il y a beaucoup, alors beaucoup d'appui avec nos partenaires internationaux. Moi, j'apprécie ça. Maintenant, c'est vrai que peut-être l'impact sur le terrain n'est pas du tout visible. Il n'y a pas longtemps, ça a été diffusé même sur la radio Capi, il y avait une donation d'autant de jeeps, de motos, de vélos, pour permettre aux agents la mobilité sur le terrain. Donc, je pense que si on regardait tous dans la même direction, et surtout voir cette lutte qui était d'abord engagée dans les années 90-2000 pour éradiquer totalement, alors totalement, cette maladie, parce que sous d'autres cieux, c'est une maladie qui n'existe presque plus. Vous pouvez même venir des... Vous allez prendre
Et alors, maître Adrien, pensez-vous vraiment que le problème aujourd'hui de l'efficacité de la lutte reste seulement dans la prise en charge? Mais oui, s'il faut aussi accompagner la population dans les conditions hygiéniques, dans les conditions de vie, dans le milieu, dans son environnement. Pour moi, je peux dire que c'est une question transversale. La lutte contre la tuberculose, non seulement se focaliser sur le plan médical, mais aussi sur le plan de l'environnement, des conditions de vie et d'autres facteurs qui peuvent favoriser le développement de la tuberculose dans un milieu, maître Adrien.
Exactement, Pierrot. Vous avez totalement raison. C'est une question transversale. C'est-à-dire, d'une part, il faut ne pas relâcher la prise en charge, parce que elle est vraiment importante, cette prise en charge, parce que si celui qui a la tuberculose n'est pas pris en charge, c'est vraiment un danger pour la République et pour la population. Et aussi, deuxièmement, au sein de la population, il faut une intense sensibilisation pour que lorsque quelqu'un, comme on le faisait au temps jadis, lorsque quelqu'un pouvait tousser au-delà de 15 jours, on peut lui demander de se rendre
dans un centre de santé le plus proche.
Il y a certaines personnes qui ont la tuberculose, mais qui s'ignorent. Donc, c'est comme ça que moi, je pense que si on sensibilisait la population et aussi on prenait aussi en charge, ça sera vraiment une
bonne chose. Merci. Merci beaucoup, maître Adrien. Vous avez ajouté la dimension sensibilisation. Il faut aujourd'hui que la population soit sensibilisée, comme on le disait. Quand tu tousses plus de 15 jours, voici, va à l'hôpital. Voilà, c'est une lutte qui ne va pas seulement concerner le ministère de la Santé, mais il faut une synergie pour consolider les acquis de la lutte contre la tuberculose. Merci. Docteur Kayembe, merci de nous avoir appelés. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, JR. C'est le docteur Kayembe Louboya Martin Séraphin qui vous appelle, qui est de Lubumbashi, mais qui vous appelle dans la province du Kasaï Central, plus précisément dans la ville de Kananga.
Ah, vous êtes à Kananga. Voilà, ok. Alors, aujourd'hui, vous avez suivi notre ami Adrien qui estime que cette question, c'est une question transversale. Elle doit être abordée non seulement par ceux qui font de la médecine humaine ni les hôpitaux, mais la considérer comme un fait des sociétés. Il faut inclure aussi la sensibilisation pour arriver à rendre vraiment dynamique la lutte contre la tuberculose dans notre milieu. Quel est votre point de vue?
Oui, avant d'en arriver là-bas, j'aimerais d'abord dire quelque chose sur la prise en charge. Parce qu'à l'époque, on internait les gens pour éviter la contamination. Et on les alimentait comme il faut. Cela avait de l'impact aussi sur les soins apportés aux animaux qui souffraient de la tuberculose. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Alors, sachant bien que la tuberculose est une zoonose, une maladie qui peut se transmettre de l'animal à l'homme et vice-versa. Alors nous devons aussi penser aux professionnels de la santé, mais qui s'occupent des animaux. Je vois souvent quand vous parlez de maladie, vous invitez des gens, mais je n'ai pas encore vu un médecin vétérinaire passer là-bas pour aussi parler, parce qu'il est agent de la santé en amont. Lui n'est pas en aval, il ne soigne pas les hommes, mais il prévient par ses actes les maladies. Alors, on trouve que nous sommes avec les animaux. Ces animaux-là, développe de la tuberculose.
Mmh.
Et on ne s'occupe pas de celui qui pourrait s'occuper d'eux. Il y a les animaux de compagnie qui sont avec nous chaque fois.
Mmh.
Il y a les chiens, il y a les chats. Il y a les animaux que nous utilisons comme pour l'alimentation. Il y a les bovins. Tous ces animaux-là peuvent développer de la tuberculose. Alors, ce que je peux demander à l'État, c'est que, en dehors de la sensibilisation, c'est bien de sensibiliser, mais le plus grand sensibilisateur, c'est l'État qui pourrait prendre en compte ce que les professionnels de la santé, les médecins vétérinaires, bien entendu, que ce qu'ils lui disent, ce qu'ils pourraient lui dire, prendre en charge tout ce qu'eux aussi peuvent faire. Par exemple, ici. Allô?
Oui, allez-y, docteur, vous êtes en ligne, continuez, oui.
Ok. Je dis qu'on s'occupe souvent de cette maladie, pour moi, c'est d'un côté. Quand vous soignez, vous ne regardez pas d'où provient la maladie.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que ce sont des efforts que vous fournissez en vain quelque part. Donc, ces résultats-là sont fragiles. Ce sont des avancées fragiles. Parce qu'à un certain moment, il y aura résurgence. Parce que vous touchez d'un côté, vous laissez l'autre côté.
Et ça, c'est important. Donc, ce que vous avez. Mais est-ce que, docteur Kayembe, il arrive au niveau de la médecine, que ce soit le programme national de lutte contre la tuberculose, de pouvoir associer dans les réflexions, dans les stratégies, le médecin vétérinaire? Parce que ce que vous relevez, c'est important, cette dimension, elle est importante. Mais est-ce qu'il arrive des fois que vous puissiez être associé dans les réflexions pour travailler en synergie autour de stratégies à élaborer pour lutter contre la tuberculose?
Non, malheureusement, ça n'arrive jamais, Pierrot. Ça n'arrive jamais parce que chez nous, au Congo, on pense que la santé est divisée. Donc, on pense que la santé, c'est les médecins avec la blouse blanche dans les hôpitaux, les médecins humains. Et le vétérinaire, lui, il est là pour les animaux, ça ne préoccupe personne. À titre d'exemple, l'année passée, nous étions dans la province du Katanga. On a organisé la vaccination gratuite de chiens, la vaccination contre la rage. Et on n'a eu aucune subside de l'État. Nous avons demandé des aides, on ne nous a pas aidés. Mais coup de chapeau à la MVC qui a, dans la banlieue de Lubumbashi, vacciné environ 1000 chiens. Tout ça, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait la rage qui entourait, il y avait des gens qui mouraient de la rage. Pendant la même période, le ministre de la Santé est venu à Lubumbashi parce qu'il y avait un cas de poliomyélite. Quelqu'un était mort de la polio, un enfant qui manifestait les signes de la polio. Et le ministre est venu, on en a fait un grand tapage, mais pendant la même période, nous étions là en train de vacciner les chiens contre la rage parce qu'il y avait des gens qui amouraient.
Et personne n'en parlait. Et alors, ce que vous avez dit, docteur, c'est important. Il faudrait qu'on puisse réfléchir à cette synergie parce qu'il y a cette tuberculose qui attaque les animaux des compagnies que nous avons, qui peut facilement se transmettre à l'homme. On n'a pas tendance à savoir dans le milieu, dans l'environnement. C'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure la question de l'environnement. Il ne va pas rester seulement à l'hôpital pour donner les médicaments, mais il faut voir dans l'entourage de l'homme comment on peut accompagner cette lutte contre la tuberculose. Merci beaucoup, docteur Kayembe. Vous êtes médecin vétérinaire, vous êtes en ce moment à Kananga, au Kasaï central. Nous allons retourner ici à Kinshasa. Madame Eve Bazaïba, bonjour, bienvenue dans cet échange. Madame Eve, vous êtes avec nous, Bazaïba, bonjour.
Oui, bonjour.
Et vous êtes députée nationale, membre, je crois bien, de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale.
Exactement, je préside la commission socio-culturelle à l'Assemblée nationale.
Et cette question que nous abordons sur la lutte contre la tuberculose, elle entre effectivement dans les attributions de votre commission. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment consolider les avancées de la RDC dans la lutte contre la tuberculose. Vous êtes en politique. Comment on peut arriver aujourd'hui quand même à pouvoir faire un pas sur ce qui a été déjà fait sur terrain?
Oui, la responsabilité incombe en premier lieu à l'État. Pour que nous puissions consolider les acquis de la lutte, il faut d'abord augmenter les budgets qui s'occupent de ces domaines-là, dans le social, dans son ensemble, et aussi la santé spécialement. Quand je dis le social dans son ensemble, parce que vous connaissez la réalité de la maladie qui est la tuberculose, c'est la facilité des transmissions. Avec les situations que nous vivons de promiscuité, on n'a pas une politique de santé de l'habitat. Il y a un problème d'accès aux soins de santé, pas seulement dans de grands centres urbains, mais aussi...
Dommage, là on vient de perdre Madame Eve Bazaïba, députée nationale, présidente de la commission socioculturelle Assemblée nationale, qui venait d'évoquer d'abord la question de l'augmentation du budget de l'État, le budget alloué au ministère de la Santé. Elle a évoqué aussi les conditions de l'environnement, la promiscuité par l'absence de la politique décente de l'habitat. Dommage qu'on l'a perdu et on pourra voir avec la réalisation si on peut la récupérer. Mais en attendant, on reste à Kinshasa. Docteur Richard, merci. Bonjour, merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission Parole aux auditeurs. Bienvenue dans cet échange.
Merci et bonjour, Pierrot.
Et nous avons eu tout à l'heure docteur Kayembe, médecin vétérinaire, qui a quand même soulevé une question de taille sur la relation entre l'homme et les animaux dans la considération de cette maladie, la tuberculose. Alors, pour vous, aujourd'hui, en tant que médecin, au-delà de la prise en charge, c'est-à-dire des médicaments qu'on donne aux gens qui tombent malades, quelles sont d'autres sphères qu'on peut explorer aujourd'hui dans l'efficacité de la lutte contre la tuberculose?
Merci pour cette question. Avant de répondre, je félicite Dr Mukendi qui vient de parler à partir de Kananga, parce qu'il a compris que la lutte contre la tuberculose n'est pas une lutte unijambiste. C'est une lutte que moi je peux appeler avec une approche intégrée. Je le félicite parce qu'il a été au-dessus des réflexions que moi je peux appeler partisanes. Mmh. Alors, maintenant pour répondre à votre question, je dis que la lutte contre la tuberculose, c'est une lutte que je peux appeler pluridisciplinaire. Mmh. C'est ainsi que nous faisons la promotion d'une santé unique, pas dans le sens du dépistage des maladies, mais dans le sens de faire de ceux qui font la lutte contre les maladies des agents supérieurs ou des cadres supérieurs de développement. Pourquoi je dis ça? Souvenez-vous de l'émission que nous avions eu à réaliser ou commenter sur la malnutrition.
Oui.
Comment on peut faire une lutte contre la tuberculose dans une population qui a en son sein 42% des gens qui ne mangent pas bien? Ils sont dans ce qu'on appelle l'hypo-défense de l'organisme. Ils peuvent attraper n'importe quoi, même la tuberculose. Et puis, 42% des gens s'occupent d'eux. Ça fait 84% des gens qui s'occupent de cette maladie-là, la malnutrition. Et il n'y a que 16% qui sont des personnes actives pour développer le pays. Voilà comment on peut ne pas atteindre les objectifs qu'on nous parle là, je ne sais pas quoi, émergents, etc. Ça. Deuxièmement, la qualité des aliments qui entrent dans le pays, parce que nous sommes sous-producteurs d'aliments, avec tout ce que nous avons comme forêt, pluie, cours d'eau, etc. Vous avez suivi comment les enfants congolais vont à Maluku ramasser les aliments impropres à la consommation, jetés, qu'on n'a pas incinérés. Comment peut-on faire la lutte contre la tuberculose? Là, je m'adresse aux femmes. Ils utilisent des produits qui inhibent l'immunité. Tous ces produits-là que les femmes utilisent pour éclaircir le visage, ça détruit l'immunité. Et quand l'immunité est détruite, là je m'adresse directement à Mme Eve Bazaïba, peut-être que je lui avais écrit pour qu'elle reçoive une dame biologiste qui parle de choses de type la femme, et pourquoi pas de moi-même. Alors, comment on peut, dans une société où les femmes inhibent l'immunité, lutter contre la tuberculose? Donc la lutte doit être en amont. Les médicaments ne feront rien. Ça va traverser les gens et les gens mourront peut-être de l'intoxication de ce médicament. Merci. Peut-être si vous avez autre chose à poser comme question, je vous répondrai.
Oui, docteur Richard, on vous garde en ligne, on va revenir à vous. Nous allons écouter Arsène qui est à Dar es Salaam. Gardez la ligne, docteur Richard, le temps que nous puissions vous relancer avec une autre question. Arsène, vous êtes à Dar es Salaam en Tanzanie. Bonjour et merci de nous avoir contacté pour intervenir dans cet échange.
Oui, bonjour. Et je remercie encore de m'associer dans l'émission. Bon, au fait, je suis en train de sentir des préoccupations différentes, mais quelque part, je m'insiste à ces préoccupations. Parce que s'agissant d'abord de la tuberculose, bon, à mon point de vue, bon, c'est sûr, il y a l'environnement qui joue aussi le rôle. Mais les choses sont totalement spécifiées. Parce que vous-même, vous vous rendrez d'abord compte, nous avons les gens qui fument. Quand il y a des personnes qui fument, bon, aux cigarettes, on écrit « fumer est préjudiciable à la santé ». Et il y a beaucoup d'impacts à quelqu'un qui fume. Bon, nous sommes tous dans le domaine médical, j'ai un message à santé publique, dans les hôpitaux, regardez dans les hôpitaux, la plupart des cas, il y a des cas pour les gens qui sont fumeurs. Et quand il y a des cas pour les gens qui sont fumeurs, à quoi bon vous allez terroriser l'État? Pour dire que l'État congolais, c'est l'État. Non, il fallait être un peu sérieux d'abord. Il y a ceux-là qui fument, tous ceux qui fument, tous ces chauffeurs qui fument, tous ces gens-là, même des médecins, ils fument et ils attrapent des tuberculoses à travers les cas de fumer des cigarettes, ça qui n'est pas des réserves. Bon, d'autres cas aussi. Bon, c'est sûr, hein, il y a le ministère de l'Affaires sociales, bon, aujourd'hui, qui joue presque les inconvénients. Bon, il y a des taxes de l'environnement qu'on paye. Bon, nous avons des entreprises qui paient des taxes de l'environnement au moins par an, ça c'est 100 dollars. Mais cet argent va où? Au moment où il y a des immondices à gauche, à droite, et il y aura même les innocents qui vont rattraper cela. D'autres cas aussi, regardez dans nos ménages, laissez les journalistes. Est-ce que dans nos ménages, il y a des déportoirs? Est-ce que dans nos ménages, dans nos quartiers, est-ce que c'est pas public? Est-ce qu'on brille tous ces immondices? Est-ce que, bon, dans des guerres, lorsque nos militaires quittent au front, ils sont contrôlés? Est-ce que les médecins aussi, ils sont en train de pavader là, dans l'émission. Est-ce qu'après avoir fait aussi des interventions à l'hôpital, est-ce qu'ils se lassent convenablement? Hein, vous voyez? Donc il ne faut pas combler l'état de 100%, on crie l'état. Non, il y a d'abord la conscience personnelle. Et quand on sent la conscience personnelle, quelque part, on doit se protéger. Madame, bon, j'attends bien madame la députée pour dire un peu de vérité, mais il ne faut pas oublier la VGE aussi. Elle est députée, il a le rôle, et on ne voudrait pas seulement faire le rôle pour faire des campagnes électorales et votez-moi, non, il fallait d'abord être conscient, toi mais madame, d'abord la députée dans votre quartier, dans votre ménage, là où tu entres dans ton église, il fallait aussi prêcher pour que tout le monde soit en mesure de se protéger. Donc, quelque part, j'ai ça d'abord, c'est une conscience personnelle, parce que les tuberculoses ne pouvaient pas venir, et vous-même, vous n'avez pas cherché, surtout, en cas de fumée, en cas d'entrée, toutes ces histoires-là qui viennent d'énumérer. Donc, je m'arrête d'abord à ce niveau-là, messieurs les journalistes.
Ok, merci beaucoup Arsène. Vous avez insisté sur l'environnement, la cigarette. Voilà, il faut prendre en compte toutes ces considérations. C'est une question, comme je le disais tout à l'heure, transversale. Et c'est pourquoi docteur Richard, qui est encore avec nous, je crois. Docteur Richard est parti, on est encore avec docteur Richard. Docteur Richard, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous.
Voilà, merci. La question de relance que j'avais, c'est ce que Arsène venait de dire tout à l'heure autour de l'environnement. Et vous avez évoqué la malnutrition, le produit consommé, le produit utilisé dans notre environnement. Mais aujourd'hui, même quand on évoque cette question de tuberculose, c'est une question qui reste entre les infirmiers et le médecin. On ne voit pas peut-être au niveau de la communauté, des personnes impliquées, des comités de base, des sensibilisations. On sait vraiment aujourd'hui que la stigmatisation beaucoup diminué dans notre milieu autour de la tuberculose. Faudrait-il aujourd'hui avoir aussi des personnes qui ne sont pas de domaine médical, mais qui sont formées, impliquées dans la campagne, dans la sensibilisation sur le terrain, comme on le voit avec la poliomyélite et autres?
Oui, je voudrais jeter le fleur à monsieur docteur Niakala, qui était médecin inspecteur de la ville de Kinshasa, secrétaire général AI au ministère de la Santé publique. Il avait présidé à la formation des pères, c'est-à-dire les pères tuberculeux guéris. Mmh. Ce sont ces gens qui descendaient dans la communauté pour soutenir et encourager les personnes atteintes de tuberculose. Mmh. Okay? Mais cela ne voudrait pas dire que la maladie pulmonaire qui fait saigner est seulement la tuberculose. Depuis que le BES est parti, il nous a laissé l'amiante sur les toitures au niveau de, par exemple, les anciennes cités. Cité Baudouin, qu'on appelle aujourd'hui Pinzi, Yolo, Matongue, etc. Même dans les maisons qu'on a laissées à Angili, quartier 4, la cité des enseignants, quartier 4 Malanga. L'amiante détruit le poumon. Et il suffit que une petite maladie se greffe là-dessus, la personne va saigner. Est-ce qu'on va soigner la tuberculose? Et quand est-ce qu'on va enlever l'amiante? Partout dans le monde, Eternit a fait faillite. Sauf au Congo, là où Eternit se repose en paix. Quand est-ce qu'on va désamianter la ville de Kinshasa? Quand est-ce qu'on va désamianter nos villes laissées par les Belges? C'est ça le problème. Quand est-ce qu'on mettra
comme loi le fait de mettre au niveau des tuyaux d'échappement des véhicules les filtres à particules. Quand? C'est ça le problème. Mm-hmm. Quand est-ce que quand je rends visite à un ami à côté des Chinois sur Bypass, il y a leur usine qui pompe la silice de pierre qu'on est en train de couper, de morceler là, dans l'atmosphère. Et ça retombe sur les habitations et les habitants. Quand est-ce qu'on dira aux Chinois de mettre le filtre là?
Alors voilà, ça dit qu'il y a toutes ces questions, toutes ces pratiques et tous ces autres produits hein, qui sont à côté et qui peuvent facilement faire développer la maladie. Merci beaucoup, docteur Richard, pour votre contribution. Oui, allez-y, terminez par là, oui.
Oui, je voudrais dire ceci aux médecins. Quand les pneumologues se rencontrent, ça ne peut pas être seulement les pneumologues. Ils doivent être entourés de tout le monde qui s'occupe de la santé, même l'agriculteur. Quand les chirurgiens se rencontrent, ils doivent appeler tout le monde, même l'agriculteur, même le balayeur. Tous ces gens ont quelque chose à dire sur la santé de la personne humaine.
Merci beaucoup. Merci, docteur Richard, pour toutes ces précisions. Dieu merci, vous êtes à Manono. Vous gardez la ligne 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous parlons de la lutte contre la tuberculose en rappelant que le 24 mars de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre cette maladie considérée par l'Assemblée générale des Nations unies comme un point clé, comme cible hein, pour le développement durable d'ici 2030. Afin de mettre fin à cette maladie. Et en RDC, beaucoup de progrès ont été réalisés. Alors, comment capitaliser ces avancées? C'est la question au centre de notre échange.
Radio Capi clôture le mois de la femme avec ses deux programmes interactifs. Au Capi Service et Paroles aux auditeurs, ce jeudi 31 mars 2016, de 9h à 11h à l'ISP Gombe.
Radio Capi en direct de l'ISP Gombe à l'occasion.
Bienvenue dans Parole aux auditeurs, ces cadres d'échanges citoyens.
Au programme, égalité des sexes, autonomisation de la femme et leadership féminin. Hommes, femmes et vous tous qui militez pour la promotion de la femme,
venez nombreux participer à ce rendez-vous spécial.
Merci beaucoup pour la parole. Donc, nous sommes en train de parler pas seulement de l'ISP, mais pour toutes les universités et institutions supérieures.
Bonjour Radio Capi. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole aujourd'hui. On parle...
Au Capi Service et Parole aux auditeurs, à l'ISP Gombe, ce jeudi 31 mars, avec...
Jody Daniel Kachama et J.R. Lungembo.
Voilà, le rendez-vous est pris demain avec le deux magazines interactifs de Radio Okapi à l'ISP Gombe en direct, bien sûr, pour clôturer le mois de la femme. Beaucoup d'équipements s'étaient plaints quand on a eu parole aux auditeurs, que ce soit à Goma, Okapi Service à Goma, parole aux auditeurs à Bukavu, à Lubumbashi, Okapi Service à Bunia, récemment aussi dans le Congo central. Mais voici l'équipement, c'est votre tour. Soyez nombreux alors à l'ISP Gombe demain pour ces deux émissions spécial et en direct. Nous retournons dans Parole aux auditeurs autour de la prise en charge et la lutte contre la tuberculose. Dieu merci, vous êtes à Manono. Bonjour et bienvenue dans cet échange. Dieu merci, vous êtes avec nous.
Oui, je suis avec vous. Bonjour,
voilà.
Bonjour.
Merci, Dieu merci. On vous écoute. Vous avez suivi les uns et les autres. Alors, sur place à Manono, avez-vous une idée de la manière dont cette maladie aujourd'hui est prise en charge dans votre milieu?
Oui, premièrement, je vous remercie, cher. Parce que moi, je suis directeur de programme d'une chaîne de radio qui émet à partir de Manono ici. Et quand on a célébré cette journée, moi, je m'étais étonné. On a essayé de circuler les micros pour demander s'il y a même des gens qui connaissent que le 24 mars de chaque mois, on célèbre la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Mais c'était zéro. Bon, si la population n'est pas d'abord informée, est-ce que cette population peut sembler et apporter de contribution à la lutte contre une telle ou telle maladie? Ça, c'est déjà un problème. Moi, je m'étonne à Manon ici pour la tuberculose dont tu l'as question. J.R. C'est une question très, très, très compliquée. Moi, je me pose des questions. Comment il y a beaucoup d'ONG qui doivent appuyer la lutte contre cette maladie ou bien d'autres maladies? Au lieu de commencer par la prévention, par exemple, sensibiliser, comme l'un de mes pères de fer l'a dit, sensibiliser les gens, connaître d'abord la maladie. Ce n'est pas dit que tout le monde doit accéder, doit étudier la santé, non. il y a quand même ceux qui n'ont pas étudié, mais qui sont formés comme nous avons les relais communautaires et les autres, qui s'utilisent déjà pour l'autoprise en charge à telle ou telle maladie. Mais pour la tuberculose, là, JR, moi je vais vous dire, c'est un problème, même au niveau des structures sanitaires, c'est comme si ces problèmes n'existent plus encore. Voilà, là, il faut quand même.
Ce que vous avez vu, vous avez dit, c'est important. Vous estimez que même quand on a célébré la journée, le 24, beaucoup de gens ne savaient pas ce qui se passait. Le problème aujourd'hui, c'est l'ignorance. Il y a l'absence de l'information. Si on doit avoir des gens qui sont formés comme des relais communautaires, vous avez donné cet exemple, ils peuvent apporter l'information auprès de la population autour de la tuberculose, de la prise en charge. Il faut vraiment de fortes campagnes de sensibilisation, comme le disait tout à l'heure Arsène, qui nous a appelé des Dar es Salaam en Tanzanie. Olivier, vous êtes à Kikwit, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, vous avez suivi Olivier tout à l'heure, docteur Richard Abdu a évoqué cette question qui est transversale. Hein. Quand on parle de la lutte contre la tuberculose, il ne faudrait pas que ça reste seulement une histoire de l'hôpital avec les infirmiers et le médecin, mais que ça soit aussi étendu dans la communauté, dans l'environnement, dans le débat, dans la sensibilisation, que tout le monde soit impliqué. Vous avez suivi les uns et les autres, Olivier, c'est Pierrot. Quel est votre point de vue alors?
Excusez-moi, Pierrot. Oui, je pense que la plupart de mes prédécesseurs ont raison dans ce qu'ils ont dit. Mais le problème est très, très sérieux. Je crois qu'il va nous intéresser tous. Alors, moi, je veux parler de façon plus particulière de Kikwit et des environs. Le combat est mené sérieusement. Et je dois vous dire que nos petits-fils se moqueront de nous. Parce que la Fondation d'Amiens, c'est de l'argent qui n'appartient pas aux Congolais à 100%. Cet argent... Et c'est énormément, c'est beaucoup d'argent que la Fondation d'Amiens met à la disposition de la RDC pour lutter contre la tuberculose. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que la contribution des nous Congolais n'est pas suffisante et ne permet pas qu'on puisse aller vraiment à pas de géant. Alors, qu'est-ce que j'appelle contribution? Nous avons la sensibilisation, comme vous venez de le dire, mais nous avons aussi l'intervention des pouvoirs publics. Vous savez, Pierrot, qu'est-ce qui se passe dans nos centres de santé? Avant de parler des centres de santé, d'abord la population de manière générale, les tuberculeux, pour la plupart, sont des pauvres. Et ça, c'est l'une des difficultés dans les traitements, parce que le docteur l'a dit, les médicaments se retrouvent sur le terrain malnutris et ça ne résout pas exactement le problème comme ça devait le faire. Donc ça, c'est un premier problème. Alors, nous avons aussi les structures, nos centres de santé. Pierrot, je peux vous dire qu'il y a des centres de santé qui ont perdu même la confiance des malades. Et ça, c'est dans la périphérie de la ville et dans des centres, parce que je sais que nos superviseurs d'équipe vont toujours dans des villages et ils ont des difficultés avec les centres de santé. Alors, certains microscopes qui n'arrivent plus à aider à faire le diagnostic. Nous avons un autre problème, Pierrot. L'instabilité du personnel. Je vous donne des cas précis. Vous allez à Kaemba, par exemple, la Fondation d'Amiens forme des infirmiers, mais comme ils n'ont pas de revenus suffisants, ils traversent la frontière, ils se trouvent en Angola. Et ça, c'est un problème très sérieux auquel la Fondation est confrontée, ou le service de l'EPLE tuberculose, pas la Fondation, le service de l'EPLE tuberculose, l'instabilité. Alors, nous avons un autre problème, les infrastructures routières. Nos superviseurs, Pierrot, quand ils doivent aller à Brousse, Cochibanga, je ne sais plus quoi encore, vous avez pitié d'eux. Il fait 2 jours à moto, sous la pluie, et c'est sur des routes impossibles. Alors, ça rend difficile la prise en charge dans la périphérie. Alors, vous savez que la contamination est facile dans cette affaire-là. Et vous essayez de soigner à Kikwit, mais ceux qui sont à Cochibanga qui sont malades, ceux qui sont à Vanga qui sont malades, ils vont finalement conserver le méta et la maladie reste. Donc, je crois que nous ne devons pas toujours dire que, bon, les médicaments sont là, c'est vrai. On a connu quelques problèmes de rupture des stocks. Ça aussi, c'est un autre problème. Et un autre grand problème, Pierrot, c'est le contrôle du circuit des médicaments. Moi qui vous parle, j'ai surpris il n'y a pas très longtemps, à Kinshasa, dans la commune de Lingwala, quelqu'un qui se promenait avec des boîtes de comprimés antituberculeux. Et il me dit, quand je l'ai menacé, il me dit, non, j'ai acheté ça à Kabinda. Alors, vous comprenez que quand on doit se retrouver avec des médicaments qui sont à principe réservés, ça c'est un domaine réservé. Alors, quand les médicaments doivent circuler dans la ville, comme ça, dans les mains de n'importe qui, ça c'est aussi un problème.
Et il faut rappeler quand même, Olivier, que vous êtes pharmacien, c'est ça?
affirmatif, je suis pharmacien et ça me fait très mal quand je vois des choses comme ça. Mm-hmm. Quand l'État ne sait rien faire pour contrôler les circuits pharmaceutiques, mm-hmm. ça pose d'énormes problèmes.
Mais les questions que vous avez soulevées, vous avez, merci beaucoup Olivier Dekikuit, hein, vous êtes pharmacien, vous avez quand même soulevé les questions importantes. Vous avez parlé de la pauvreté qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont mal nourris. Il y a le problème de malnutrition et ce qui rend aussi difficile hein, la lutte contre la tuberculose, la prise en charge quand les gens ont des problèmes de nutrition. Le docteur Richard l'a évoqué tout à l'heure. Vous avez évoqué les difficultés qu'ont beaucoup de centres de santé dans la périphérie de pouvoir examiner les malades comme il faut, ce qui arrive. Le problème de la prise en charge des agents, ceux qui travaillent, qui sont instables, vous l'avez dit. Le problème des routes pour ceux qui doivent acheminer le médicament vers les fins fonds. La rupture des stocks, ça a été connu, mais on doit aussi contrôler les circuits des circulations et des distributions des médicaments, des luttes contre la tuberculose. Merci, Olivier, d'avoir relevé tous ces éléments. Merci. Nous avons en ligne docteur Georges Bakassoa, qui est le directeur du programme national de lutte contre la tuberculose. Docteur Bakassoa, merci en tout cas d'avoir accepté à pied levé, bien sûr, hein, notre invitation pour réfléchir ensemble avec nous sur comment consolider les acquis de la RDC dans la lutte contre la tuberculose. Docteur, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Merci, bonjour, Monsieur Pirot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Nous avons quand même dit que la RDC a déclaré depuis 2006 la tuberculose comme une urgence nationale. Hein. L'idée, c'est de pouvoir arriver vraiment à rendre plus efficace la prise en charge. On peut avoir une idée aujourd'hui de la situation à travers le pays par rapport à cette maladie.
Oui, une idée. Merci, Pierrot. Je salue Olivier, que je venais juste de suivre, parce que je n'ai pas suivi les autres auditeurs intervenants. Olivier qui a dit beaucoup de choses. Bon, la lutte contre la tuberculose en RDC, elle est organisée sur l'ensemble du pays. Et couvre les 516 zones de santé. Mmh. Dans chaque zone de santé, nous avons au moins deux ou trois centres de diagnostic, que nous appelons centres de santé de diagnostic et de traitement. Et l'effort que nous faisons, c'est d'intégrer le reste des centres, parce que dans une zone de santé, on trouve peut-être une quinzaine ou une vingtaine de centres de santé, en plus de l'hôpital général. Alors, l'idée est que nous devrions arriver à ce que chaque structure de santé qui existe dans la zone de santé soit capable soit de diagnostiquer, soit d'orienter le malade vers le diagnostic et de prendre le malade en traitement. L'objectif est que chaque malade diagnostiqué soit soigné le plus proche de sa maison pour éviter tous ces problèmes que nos amis ont parlé dans la prise en charge, les routes, ainsi de suite. Je pense d'abord que la tuberculose n'est pas l'unique maladie qui fait fureur dans le pays, n'est-ce pas? Nous avons aussi le paludisme, nous avons aussi le VIH, nous avons autant de problèmes de diarrhée, et ainsi de suite. Donc, quand il y a des problèmes de route ou des problèmes de prise en charge des agents, c'est des problèmes généraux qui sont pour l'ensemble du système de santé. Il ne faut pas le mettre seulement sur la tuberculose. Mais pour la tuberculose, l'organisation est telle que nous avions voulu une couverture globale, universelle. C'est-à-dire que nous voulons que chaque centre de santé et chaque pharmacien, parce qu'Olivier est pharmacien, nous avons, nous, planifié dans le plan stratégique national de lutte contre la tuberculose, nous avons planifié de former aussi les pharmaciens. Parce qu'il y a beaucoup d'automédication et les gens partent acheter des médicaments contre la toux alors qu'ils ont la tuberculose. Donc nous voulons aussi former les pharmaciens. Et il n'y a pas que les pharmaciens. La plupart des boîtes qui vendent les médicaments, ce ne sont pas les pharmaciens. Donc, nous devrions les former pour les sensibiliser, pour qu'ils comprennent que quand il y a la toux, il faut quand même aller se faire examiner au lieu d'aller chercher des sirops. Et pendant ce temps-là, la tuberculose perdit. Mmh. Donc, nous arrivons à ce jour à la stratégie NTB qui est programmée par l'OMS. C'est que nous devrions, le monde entier voudrait que d'ici 2035, nous arrivions à éliminer la tuberculose. Et comment on peut y arriver si tout le monde ne s'implique pas? Ce n'est pas avec les centres de santé qu'on va y arriver, c'est avec toute la communauté qu'on doit sensibiliser. Et que tous sachent que quand il y a la toux, il faut aller dans le centre de santé. En 2006, bien sûr, vous l'avez dit, on a proclamé la tuberculose comme urgence, mais c'est déjà en 2001 ou 2002 qu'on a décidé dans le pays que la tuberculose soit soignée gratuitement.
Gratuitement, oui.
Ça veut dire que tout ça, c'est pour éviter qu'il y ait une barrière qui empêche que le tuberculeux ne puisse aller au centre de santé. Et quand on fait cela, il y a un sacrifice qui se fait du côté des agents. Parce que il y a beaucoup de centres de santé, beaucoup de structures qui font l'autofinancement. Et maintenant que le malade tuberculeux est soigné pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant 24 mois, ça dépend de la forme de la maladie. Donc, pendant ces temps, le malade fréquente la structure. Nous utilisons la stratégie d'autres, c'est-à-dire que le traitement est directement observé. Ça veut dire qu'on pousse le malade à avaler le médicament devant l'infirmier pour qu'il ne puisse pas cacher le médicament et aggraver sa maladie. Les microbes deviendront multirésistants. Mais pour nous, on veut que le malade vienne au centre de santé. C'est pour ça aussi qu'on veut que ce soit le plus proche de sa maison.
Oui.
Pour qu'il ne fasse pas de grandes distances, mais chaque jour, pendant au moins 2 mois, il doit prendre le médicament au centre de santé.
Mmh.
Et ça, c'est un sacrifice que le personnel médical, le paramédical fait, et dont nous sommes conscients, et dont nous plaidons, et pour qu'on arrive à prendre ce personnel en charge pour faire une compensation de ce que le malade devait payer, mais que le gouvernement paye ou que les partenaires payent.
Mmh. Voilà et docteur Georges, je crois qu'il y a cette question sur la résistance, hein, la tuberculose résistante aux médicaments. Est-ce que la RDC connaît aussi cette situation ou bien les proportions sont quand même qu'on peut minimiser ou on peut facilement résoudre ces genres de cas de résistance?
Non, la situation est grave. On ne peut pas minimiser cela au niveau du Congo parce que nous sommes à la RDC, parce que nous sommes comptés parmi les 28 pays qui ont une très forte charge de la tuberculose multirésistante. Et la multirésistance vient de plusieurs raisons. D'abord, puisque si le malade ne prend pas le médicament régulièrement, s'il ne prend pas chaque jour, s'il ne termine pas sa dose, s'il doit se déplacer pendant qu'il prend le traitement. Le traitement est pour 6 mois et pendant ce temps, il interrompt le traitement. Il crée déjà la multirésistance. Nous avions connu des périodes de rupture aussi. La rupture en approvisionnement en médicaments entraîne aussi la multirésistance. Donc, il y a beaucoup de raisons pour qu'il y ait cette multirésistance, mais nous prenons aussi la formation du personnel qui soigne. Mais ça, nous pensons que le personnel qui soigne avec ce médicament, il est bien formé pour bien respecter les doses et utiliser les médicaments qui ne sont pas périmés. J'ai entendu tout à l'heure notre ami Olivier qui parlait de boîtes d'antituberculeux qui seraient en circulation. Ça, c'est une des raisons pour la multirésistance, parce que si dans les pharmacies, dans les pharmaciens ambulants ou je ne sais pas quoi, s'ils arrivent à attraper les antituberculeux et qu'ils doivent donner aux malades, alors ils ne connaissent pas les doses, ils ne connaissent pas la cure complète, c'est combien, ils vont nous créer la multirésistance.
Voilà. On vous garde, docteur Georges Bakasso, on vous garde. Nous allons écouter Ernest qui est à Matadi, Ibenge est ici à Kinshasa. Ernest, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue.
Bonjour Piero, bonjour à nos invités, à tout le monde qui nous écoute à Saint-Estan.
Vous êtes à Matadi au Congo central et nous, c'est ensemble comment dégager hein, les pistes et des solutions pour rendre plus efficace la lutte contre la tuberculose, mais aussi les acquis déjà enregistrés par la RDC. Vous avez suivi vos prédécesseurs, nombreux ont estimé que cette question ne doit pas seulement concerner le médecin et les infirmiers, il faudrait qu'on ait une stratégie transversale hein, où toute la population, la communauté est impliquée dans la sensibilisation pour arriver vraiment à accompagner la lutte contre cette maladie. Quel est votre point de vue, Ernest?
Je crois que tout ce qu'ils ont dit, ce n'est pas faux. Ils ont raison. Mais moi, je voudrais insister sur les habitudes alimentaires. Parce qu'il y a notre camarade qui a appelé parce qu'il est de l'extérieur du pays, a insisté sur la catégorie des fumeurs. Maintenant, ici, moi, je constate qu'au niveau de quelques cas que nous avons au niveau du Congo central, il fallait que les statistiques nous présentent la catégorie de personnes qui sont actuellement ciblées par cette maladie. Est-ce que ce sont les jeunes, est-ce que ce sont les mal nourris, est-ce que ce sont les fumeurs, est-ce que ce sont les enseignants, ou les agriculteurs, ou les camionneurs. Il fallait qu'on puisse nous montrer la tranche des catégories de personnes qui est ciblée ou qui est plus affecté aujourd'hui. Mmh. Et parce que même si on dispose des médicaments, c'est un travail de tout le monde, de la population. Parce que l'infirmier, les médecins, les docteurs, ils sortent de la société. Ce n'est pas tous ces enfants qui sont infirmiers, ce n'est pas toute sa famille qui se trouve dans le domaine de la santé, mais ils sont dans divers services et différents travaux. Donc il fallait qu'on montre les statistiques. Quelle est actuellement, par rapport à la lutte, par rapport aux médicaments disponibilisés, quelle est la catégorie où la maladie persiste, pour qu'on puisse sensibiliser encore cette même catégorie tout en prévisant les autres et maintenir les acquis. Parce que si on laisse faire comme ça et qu'on centre les activités dans les grands centres, alors à l'intérieur, ça pose problème, comme le cas des bandes qu'on vient d'apprendre. Donc c'est un problème très sérieux qu'on doit lutter pour que la population en bonne santé, c'est une économie de la nation en forme et en développement. Donc voilà un peu...
C'est important. Nous allons poser la question.
La catégorie
oui.
de personnes... Nous allons
demander directement à notre invité Ernest. Merci pour cette question. Docteur Georges Bakasso, vous avez suivi notre compatriote de Matadi qui lui voudrait savoir hein, s'il y a aujourd'hui une couche de la population qui est plus affectée par la tuberculose. Comme ça, la sensibilisation pourra être orientée envers cette couche de la population ou bien une catégorie d'activité. Celles qui sont plus susceptibles aujourd'hui de développer la maladie, docteur Bakasso.
Ok, merci. Merci mon cher ami Pierrot, et merci à Ernest dans le Congo central. La catégorie, nous pouvons dire d'abord que nous avons ciblé la tranche d'âge qui est effectivement la plus productive du pays, c'est-à-dire que c'est les jeunes de 15 à 45 ans qui représentent 80% des tuberculés du pays. Mm-hmm. Et que ce soit des filles ou des garçons, c'est dans cette tranche d'âge-là, 15 à 45 ans, qu'on a 80% de cas de tuberculose. Nous n'avons pas encore mené une enquête. Je pense qu'il y a des enquêtes qui ont été menées, mais nous pouvons revoir un peu. Est-ce que parmi ces 15 à 45 ans, quelle est la proportion de fumeurs? Mm-hmm. Je crois que ça, nous devrions avoir...
Oui, une autre étude, oui.
Mm-hmm. Une étude pour pouvoir dire... Mais je ne crois pas que ce sont tous, il n'y a que les fumeurs. C'est vrai que les fumeurs sont une catégorie très
exposée,
sensible pour attraper la tuberculose parce qu'ils vont confondre leur toux avec la toux de la cigarette et ils pensent qu'ils toussent comme d'habitude alors que derrière la toux, derrière sa toux de sa cigarette, il y a donc derrière la fumée de la cigarette, il y a la tuberculose qui est déjà dedans. Donc, c'est vrai que les fumeurs sont très sensibles. Nous pouvons dire aussi les séropositifs, les personnes vivant avec le VIH, ils sont très sensibles à la tuberculose. Les enfants de moins de 5, moins de 15 ans sont sensibles à la tuberculose parce qu'ils vivent avec les parents ou les grands-parents qui ont la tuberculose dans des maisons où il n'y a pas d'aération. Et il n'y a pas de fenêtres, tout ça, quand ils dorment ensemble, c'est ce qu'on appelle communément les termes là, ceux qui dorment dans le salon ensemble. Donc, s'il y a un qui est tuberculeux parmi eux, il va contaminer les autres parce que c'est une maladie qui s'attrape par la voie aérienne.
Voilà, ça c'est important ce que vous avez dit. Alors, on va écouter Ibengue et Pascal qui sont à Kinshasa. Ibengue, bonjour, bienvenue dans cet échange.
Bonjour, comment
est-ce que vous avez suivi les uns et les autres votre intervention par rapport à cette question?
Oui, moi je voudrais seulement vous dire que moi j'ai travaillé au moins pendant 40 ans pour le service de la lèpre et de la tuberculose. Je crois que c'est bien le Saint Bakasso qui était en Bandaka, il connaît la situation avec le peuple autochtone dans la zone de santé de lui. Moi, j'ai travaillé là-bas et j'ai continué même à travailler. Mais le médecin a souligné un problème très capital, c'est-à-dire dans une maison, tu vas trouver au moins 4 ou 5 peuples autochtones qui sont affectés avec la tuberculose. Et leur prise en charge est vraiment très, très difficile. Donc, tu viens au centre de santé, tu dois s'occuper de leur traitement et de leur faire mourir. Et l'État ne te donne pas les moyens de leur faire mourir. Et qu'est-ce que toi, tu dois faire? Et après, il y a deux phases pour le traitement. Les phases initiales où les malades prennent les médicaments devant l'infirmier. Et dans les phases de continuation, tu dois donner les médicaments aux patients d'aller prendre à domicile. Et parfois, pendant les rendez-vous, quand tu vas chez les malades, tu trouves les malades avec les médicaments. C'est ça qui cause aussi beaucoup de problèmes pour les soins de tuberculose.
Merci beaucoup, Ibengue. Vous avez 40 ans d'expérience dans le service de l'hypertuberculose. Vous avez voulu savoir si c'est le docteur Bakasso avec qui vous étiez en Bandaka. Il connaît la situation des peuples autochtones, hein, où il y a beaucoup de cas de tuberculose, ben, bon, qui ont beaucoup de difficultés de prise en charge, même s'occuper d'eux. Mais le problème aussi dans la résistance, comme le disait notre invité, le médecin tout à l'heure, c'est aussi par rapport à la phase des continuations quand les malades doivent aller poursuivre le traitement, chez soi, qui est des fois il tombe en distraction et puis il ne prend pas le médicament, ça pose des problèmes. Merci beaucoup. Pascal, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Pascal.
Bonjour, monsieur Piro.
Vous avez suivi les uns et les autres, Pascal, votre point de vue.
Oui, mon point de vue, d'abord, j'aimerais un peu demander si peut-être on peut affronter un ennemi sans le savoir, les connaître bien.
Allez-y, continuez.
Avant d'abord d'affronter l'ennemi, on doit d'abord les connaître. Savoir d'abord qu'est-ce qui cause d'abord cette maladie-là. Hein? À partir de la cause, il y a lié de dévier à ce que la maladie ne puisse se développer dans le corps de la personne humaine. Et puis, le deuxième point, comment se fait la contamination de la TBC, ça s'est fait par quel mode? L'incubation, ça prend combien de temps? Il faut d'abord connaître en loin et en large comment l'ennemi réagit pour avoir bien l'attaquer. Quand on n'a pas bien encore connu
voilà, ce que vous avez dit, Pascal. Voilà. Et vous souhaitez, Pascal, que la population, que les gens soient assez informés par rapport à la maladie, comment elle se transmet, l'état de l'incubation, et c'est comme ça qu'on peut arriver à pouvoir lutter d'une manière efficace. Merci beaucoup, Jirès. Vous êtes à Bandundu-Ville. Bonjour, Jirès, et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup, monsieur Piro. Le courant a fait défaut ici. Nous sommes sous coupure depuis 5h du matin. Et je pense que nous sommes en train de parler des élections en Afrique et en particulier en RDC, n'est-ce pas?
Non, on a dû changer. Dommage pour vous. Dommage que vous n'avez pas eu l'occasion de suivre Radio Capi, les sujets autour des élections en Afrique. On va revenir là-dessus, hein. Dommage, Jirès. Mais on parle aujourd'hui de la lutte contre la tuberculose, les avancées enregistrées par la RDC. Comment consolider cela? Mais on pourra revenir sur la question des élections en Afrique, si pas vendredi, lundi, hein, quand on aura réglé toutes les questions. Merci beaucoup. On revient à vous, docteur Georges Bakasso. Vous avez suivi tout à l'heure notre ami Ibengue qui a une longue carrière, hein, dans la lutte contre la tuberculose et la lèpre, qui vous posait la question si c'est vous qui étiez en Bandaka, la question de la prise en charge chez les personnes autochtones, hein, qui est vraiment, qui se pose avec acuité, mais aussi une question de connaissance générale posée tout à l'heure par Pascal sur la transmission et l'incubation. Peut-être que c'est pas autour du débat, mais ces informations peuvent quand même servir les auditeurs, docteur Bakasso.
Ok. Merci, Piro. Merci, monsieur Ibengue. C'est bien moi, docteur Georges Bakasso, qui était en Bandaka. Donc, on se connaît. La situation des autochtones au niveau de l'Équateur, nous avons la population des Pygmées, un peu loin comme ça, qui sont assez réfractaires parce qu'ils sont retirés dans la forêt où ils vivent et souvent ils ne s'approchent pas de structures de santé parce qu'ils prennent souvent le traitement indigène qu'ils connaissent mieux. Mais nous essayons d'aller avec les approches telles que on forme ce qu'on appelle les relais communautaires. Donc, quand on arrive à attraper quelqu'un qui a fait la tuberculose parmi ces populations autochtones et qu'on trouve qu'il est assez ouvert, on le sensibilise pour que lui, dès qu'il est guéri, qu'il puisse nous servir comme relais communautaire. Donc, c'est lui qui va maintenant pouvoir convaincre ses congénères, ses frères, pour qu'ils puissent prendre les traitements. Et comme eux, ils sont instables, ils se déplacent régulièrement, c'est un peuple nomade, qu'est-ce qui se passe? On essaye de plusieurs stratégies. Une des stratégies, c'est de dire, on remet le médicament entre les mains de ces relais communautaires qui a compris ce qui se passe si on interrompt le traitement. Et comme ça, quand ils vont se déplacer, par exemple, pour la pêche, pour la chasse ou quoi, ils partent ensemble et il y a quelqu'un qui garde le médicament et qui va continuer à leur donner le médicament. Nous n'avons pas encore évalué toutes les stratégies, mais c'est cela qui a été une des stratégies qui a été prise. C'est de, on a essayé ça à Penjoa dans le Bandundu, qui est juste à la frontière avec Ingende de l'Équateur. Donc, nous avons essayé ça et on voit qu'on peut arriver à sensibiliser les peuples autochtones à travers les quelques personnes qui ont été malades et qui sont ouvertes, qui peuvent prendre le médicament pour soigner les autres. Et voilà, ça c'est une des stratégies, mais on reste toujours ouvert parce qu'on ne doit pas emprisonner les gens pour prendre le traitement, et on essaye toutes les autres stratégies possibles en décentralisant le traitement. Ceux qui habitent par exemple à la périphérie du village, eux, ils peuvent encore accéder au centre de santé. Mais on ne sait pas mettre le centre de santé dans toute la forêt, ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà un peu...
Voilà. On va revenir à vous, docteur Georges Bakassoa, le temps d'écouter les flashs d'information des Radio Okapi. On revient pour les 15 dernières minutes de cet échange, ainsi que la conclusion. Je rappelle encore que nous parlons de la lutte contre la tuberculose. Comment la RDC peut-elle aujourd'hui consolider les acquis, les avancées enregistrées dans ce domaine? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines. On revient ici dans ces studios pour la deuxième partie de cette émission consacrée à la lutte contre la tuberculose. Docteur Georges Bakassoa, vous êtes avec nous?
Encore là.
Voilà, mais il y a eu cette question de notre ami qui revenait sur, si vous pouvez donner peut-être une réponse rapide par rapport à la transmission, à l'incubation. En quelques mots, tout simplement, c'est aussi une sensibilisation pour que les gens découvrent qu'est-ce qui se passe. Et puis, on va écouter encore les deux autres auditeurs avant de vous accorder la parole pour la conclusion.
D'accord. Pour Pascal... L'ennemi dont il est par question, c'est le bacille de Koch. C'est un mycobactérium, donc c'est la cause de, c'est celui-là qui cause la tuberculose. La contamination s'est faite, le mode c'est par la voie aérienne. Donc quand vous avez un tuberculeux qui est bacillifère, c'est-à-dire qu'il y a, quand il crache et qu'il y a de bacilles, il y a des microbes dans ses crachats, ou quand il tousse, quand il chante, quand il parle et que vous êtes en face, vous respirez, ces microbes entrent dans l'air, ils sortent de ses poumons, ils passent dans l'air, et quand vous respirez cet air-là, ça rentre chez vous. Donc la contamination est directe par la voie aérienne. C'est contrairement à beaucoup d'autres maladies, ce n'est pas en mangeant ensemble ou en dormant ensemble, mais quand vous dormez dans une maison où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a pas d'aération, et vous dormez avec quelqu'un qui a la tuberculose, c'est normal que vous allez respirer le même microbe qu'il est en train de se faire sortir quand il respire, et vous allez être atteint de cette maladie. L'incubation que vous avez parlé, donc la durée pour que les microbes qui sont en vous se développent et causent la tuberculose, dépendent de votre état immunitaire, c'est-à-dire que si vous êtes bien nourri, vous vous portez bien, vous pouvez respirer ces microbes vont dormir dans votre corps, ce qu'on appelle le bacille dormant, et ils ne vont se réveiller que le jour que votre état sanitaire immunitaire va diminuer. Soit vous attrapez le diabète, soit vous attrapez le VIH-SIDA, soit vous avez la malnutrition, ces microbes se réveillent. Donc, ça peut aller de un mois jusqu'à autant d'années que ça va se réveiller parce que les microbes, vous les avez respirés, ils sont dans votre corps, ils dépendent de votre... Les anticorps vous défendent et les microbes dorment dans votre corps. Donc, ce n'est que quand votre corps diminue des résistances que ces microbes vont se réveiller et vous allez développer la maladie.
Voilà. On va écouter le deux derniers auditeurs. Hein. Trésor Junior, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour. Trésor Junior, bonjour.
Bonjour Radio Okapi pour la parole que vous m'avez offerte. Je fais mienne toutes les suggestions faites par les prédécesseurs.
Quant à moi, je pense que l'État puisse trouver d'autres mécanismes pour lutter contre cette maladie mortelle. Les patients de cette maladie doivent se retrouver dans leurs cellules où ils peuvent être bien soignés. Et dès nos familles, lorsqu'on remarque que l'un des membres souffre de cette maladie, on doit l'amener dans un hôpital pour raison des soins de santé. Et on doit éviter toutes sortes de contacts avec les gens qui souffrent de cette maladie, de sorte qu'on ne soit pas contaminé. Donc, la responsabilité est partagée. Elle revient d'abord à la famille, puis à l'État congolais, qui doit prendre en charge le traitement, je le dis bien, gratuit des patients de cette maladie et trouver des cellules où ils peuvent être bien encadrés durant leur traitement. C'est ça, en bref,
Voilà, vous avez proposé l'isolement, qu'il faudrait aujourd'hui, ceux qui souffrent de la tuberculose soient isolés de la famille. Mais vous souhaitez aussi que la famille elle-même puisse amener ceux qui ont des problèmes à l'hôpital. Mais la gratuité des soins, ça a été déjà évoqué dans cette émission. C'est la décision du gouvernement qu'on accède à ces médicaments gratuitement pour permettre à lutter efficacement contre cette maladie. Merci beaucoup, Trésor Junior, de nous avoir appelé de Kinshasa. Richard, vous êtes à Kananga. Bonjour, Richard.
Bonjour, Monsieur
Gilles. On vous écoute, Richard.
Je salue également notre invité. Moi, je voudrais intervenir beaucoup plus sur la prise en charge. Alors, je pense que depuis que j'ai commencé à suivre cette émission, les docteurs parlent, ils parlent souvent, quand ils parlent de la tuberculose, ils parlent également du VIH-SIDA. Et dans tout ceci, il y a toujours la prise en charge qui est relative. Mais il y a aussi un problème de rupture. Quand vous parlez de la prise en charge, il y a des ruptures. Et quand on parle de rupture, cela a des conséquences, comme le médecin l'avait dit, la docteure vient de le dire. Il y a de multiples résistances qui entraîneraient peut-être encore des cas un peu beaucoup plus graves. Et c'est quand nous l'avons connu aussi dans des situations aussi de VIH-SIDA. Il y a aussi des ruptures. Alors moi, je pense que je suis en train de proposer que est-ce qu'on ne peut pas faire comme dans d'autres pays? Je citerai par exemple le Rwanda, l'Ouganda, où à un certain moment, les taux de prévalence étaient vraiment beaucoup plus élevés. Mais ces gens-là, je pense, ils ont essayé un peu de diminuer ces taux de prévalence donc, ils ont créé tout un département, tout un ministère. Il y a tout un ministre qui est chargé de VIH-SIDA et de tuberculose. Et tout ça, je pense que ça a essayé un peu de réduire un peu les taux de prévalence. Et moi, je pense que si on le faisait aussi chez nous, ça pourrait être la même chose. Je donne un exemple. Par exemple, le produit qu'on donne au VIH-SIDA. Il y a un problème. Le problème ici à Kananga, le problème de la première ligne, ça ne pose pas vraiment des problèmes. Mais la deuxième ligne pose des problèmes. Sur la deuxième ligne, il faut prendre au moins trois molécules. Mais des fois, il n'y a que deux molécules et le troisième molécule ne vient pas. Et imaginez un peu celui qui est atteint de cette maladie. Il attendra pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois et cela pourra encore il pourra encore rechuter et on pourra toujours retourner dans le cas de résistance, de multiples résistances. Alors, c'est pourquoi je proposerais à ce que si le gouvernement peut faire un effort à ce qu'on crée tout un ministère, en dehors du ministère de la Santé publique, tout un ministère chargé uniquement de la VIH-SIDA et tuberculose, je pense que ça serait une très bonne chose.
Merci beaucoup, Richard. D'ailleurs, dans cette proposition, vous estimez que les efforts ne seront plus disparates. Ça sera des efforts concentrés vers ces maladies, les VIH-SIDA et la tuberculose, au lieu d'avoir la gestion de ces maladies dans un programme. Comme vous savez, tout est centralisé au ministère, mais avec des différents programmes qui s'occupent de ces maladies. Mais vous auriez souhaité que ça soit seulement un ministère qui s'occupe du VIH-SIDA et de la tuberculose. Comme ça, les efforts seront concentrés pour éviter surtout ces ruptures des stocks. Quand il y a rupture des stocks pour les VIH-SIDA, c'est là aussi pose des problèmes par rapport à la personne qui souffre aussi de la tuberculose parce qu'il y a une corrélation. Merci beaucoup, Richard, de nous avoir appelé de Kananga. Nous revenons à vous, docteur Georges Bakassoa, alors pour conclure cet échange. Mais avant peut-être de placer un mot de conclusion, il y a docteur Richard qui nous a appelé de Kinshasa. Kinshasa, mais aussi docteur Kayembe, qui est médecin vétérinaire à Kananga, qui a estimé que dans la lutte contre la tuberculose aujourd'hui, on ne s'intéresse pas beaucoup au rôle des zoonoses dans cette transmission. Il y a des gens qui vivent avec des bêtes de compagnie. Est-ce que dans la lutte contre la tuberculose, on prend aussi en considération le travail au niveau de la médecine vétérinaire pour savoir s'il y a des bêtes aussi qui peuvent être à la base de la transmission d'une tuberculose? C'était une inquiétude posée par docteur Kayembe, médecin vétérinaire. Mais docteur Richard, lui, avait pensé la question qu'elle soit considérée transversale autour de l'environnement, autour de la nutrition, et comme ça, ça peut accompagner la prise en charge des tuberculeux, et ça vous permet aussi de conclure cet échange.
Ok. Merci beaucoup, Pierrot. Pour la question de Dr Kayembe, je n'ai pas bien suivi parce que je ne fais pas la communication. C'est un peu... On va y revenir. Mm-hmm. Je commence par Trésor Junior qui demande qu'on puisse recréer ce qu'on a appelé les sanatoriums, mm-hmm. et qu'on puisse isoler le malade. Ça, c'est une stratégie déjà dépassée et qui ne peut plus être remise à jour aujourd'hui. Parce que nous disons que la contamination par la tuberculose se fait par la voie aérienne. Et la voie aérienne, vous êtes dans le bus, vous êtes dans l'avion, vous êtes dans l'église où on chante, vous êtes dans l'école, vous êtes dans la classe, vous êtes dans toutes les salles, vous pouvez être contaminé. Comment vous allez maintenant savoir si quelqu'un est malade pendant que vous êtes dans la chorale ensemble avec lui? Donc, ce n'est pas cela, ce n'est pas... On a pensé qu'on pouvait juguler la maladie en faisant des sanatoriums, en isolant le malade. Cette stigmatisation est mauvaise à double sens. D'abord parce que scientifiquement, ça n'apporte rien. Au moment où on dépiste que quelqu'un est tuberculeux, il a déjà contaminé autour de lui. Mm-hmm. Donc, et au moment où il a déjà contaminé, maintenant vous le prenez, vous le mettez en prison, vous le stigmatisez, il n'aura pas le courage de prendre son traitement, il se sent isolé, il se sent abandonné, alors que nous voulons que la famille puisse l'aider, le soutenir pour qu'il prenne le médicament, parce que prendre le médicament chaque jour pendant 6 mois, pendant 8 mois, ce n'est pas facile. Mm-hmm. Si on n'est pas suivi, si on n'a pas la chaleur de la famille qui vous encourage à prendre ces médicaments, même quand vous ne toussez plus et que vous vous sentez déjà en train de reprendre la santé, il faut que quelqu'un vous soutienne pour que vous puissiez prendre le médicament. Donc, aller mettre les gens dans les sanatoriums, ça n'a pas apporté de
résultats. Un peu rapidement, docteur, parce que là, on n'a qu'une minute et demie pour terminer l'émission par rapport à d'autres préoccupations.
Oh, dommage. Ok. Alors, pour Richard, je dois dire que le Rwanda, l'exemple du Rwanda et de l'Ouganda ne peut pas être transmis au Congo qui a, je ne sais pas combien de fois le Rwanda entre dans notre pays. Les ruptures sont liées à plusieurs raisons. Nous avons même le problème de médicaments ici. Nous avons des médicaments, mais il n'y a pas de vol pour aller à l'intérieur. Il y a trop peu de vols et quand vous partez dans la province pour arriver maintenant au fin fond du village, il y a encore des problèmes de route. Ça fait que nous avons des problèmes de transport à gérer et qui causent parfois ces ruptures. Donc, c'est difficile de créer tout un ministère seulement pour la tuberculose et pour le VIH. Ça ne sera pas une solution.
Rapidement, pour un mot de conclusion, oui.
Ok, un mot de conclusion, c'est que nous voulons nous occuper de la tuberculose chez l'enfant. Nous avons déclaré en 2016 que nous voulons vraiment qu'on aille vers l'enfant. Et en fait, quand on découvre les enfants tuberculeux, on va atteindre aussi ceux qui les ont contaminés, sont leurs parents, leurs grands-parents.
Merci.
Et il y a moyen d'éliminer la tuberculose si nous arrivons à éteindre le foyer qui sont la cause de la propagation de la maladie.
Merci beaucoup, docteur Georges Bakassoa, de nous avoir accordé de votre temps. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les directeurs du programme national de lutte contre la tuberculose en RDC. Merci à toute l'équipe des productions des paroles aux auditeurs. Gilles Lungembo était à la réalisation, à la coordination. Hippolyte Kapanga était à la mise en onde. Pierrot et la Mengi vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebujang. Paroles aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. Mais n'oubliez pas le rendez-vous de demain à l'ISP Gombe pour les deux productions en direct pour clôturer le mois de la femme. Merci et au revoir.